France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Les États-Unis affichent leurs ambitions sur les gisements miniers au Groenland ou en Ukraine. Nous parlons cette semaine de quatre États qui affirment leur souveraineté en matière d'extractivisme. Demain, le Mali, où la junte au pouvoir a entrepris d'éloigner des mines d'or les entreprises étrangères. Mercredi, le Mexique, qui rêve de renationaliser son pétrole. Jeudi, l'Indonésie, où les minerais ne sont plus exportés mais transformés sur place. Aujourd'hui, le Groenland, où les appétits étrangers sur les mines redonnent de la vigueur à tous ceux qui veulent s'émanciper du Danemark.
J'ai un message pour le peuple groenlandais qui est un peuple incroyable. Nous vous soutenons fermement dans votre droit à l'autodétermination et si vous le choisissez, nous vous intégrerons au sein des États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et pour la sécurité internationale.
Dear President Trump,
Monsieur le Président Trump, écoutez-moi attentivement. Le Groenland fait partie du royaume du Danemark depuis 8 siècles. Il fait partie intégrante de notre pays et il n'est pas à vendre. Je vous l'exprime ici dans des termes que vous serez en mesure de comprendre. Monsieur Trump, allez vous faire voir.
J'espère vraiment que Donald Trump viendra ici pour parler de nos ressources minières directement à notre gouvernement, sans passer par les autorités danoises. Nous en avons marre que Copenhague interfère dans tous les aspects de notre vie politique. Nous voulons notre pleine souveraineté. Nous revendiquons le droit d'avoir notre mot à dire en matière de politique étrangère.
Le Groenland, territoire autonome du Danemark, mais qui en dépend toujours pour sa monnaie, la police et la justice, ou comme le rappelait ici un député, la politique étrangère, qui en dépend aussi pour sa survie économique, puisque les subventions versées par Copenhague représentent aujourd'hui jusqu'à 1 milliard de dollars par an, soit 60% de son budget. Et c'est bien d'ailleurs ce que disent les responsables politiques danois aux Groenlandais, sans nous, vous ne pourriez pas survivre. Alors quand Donald Trump, mais aussi d'autres États plus discrets, convoitent les ressources de ce territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, peuplé de seulement 60 000 habitants, les Groenlandais semblent moins choqués que le Danemark en premier lieu et que le reste du monde. Certes, ils mesurent l'outrance dans les propos du président états-unien qui réduit l'île à une terra incognita en mesure d'assouvir la soif des entreprises états-uniennes, mais pourquoi pas, semblent dire les partis politiques à l'unisson, profiter de l'intérêt de Donald Trump pour obtenir de nouveaux contrats miniers et s'affranchir des cibles danoise, une manne financière qui permettrait ensuite au pays d'accéder à l'indépendance pleine et entière, sujet qui est au cœur de la campagne des élections législatives, lesquelles se tiennent demain, mardi 11 mars. Bonjour Pia Bayol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse postdoctorale au CERI et chargée de recherche au fonds Latour. Bonjour Marine Duc.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes enseignante chercheuse en géographie sociale et politique à l'Université de Reims, membre du laboratoire d'analyse comparée des pouvoir. Merci à toutes les deux d'être là pour parler d'un territoire que l'on connaît peu, le Groenland. Et peut-être d'abord, Pia Bayol, pour se représenter ce que les entreprises minières et les États considèrent comme un Eldorado des minerais. Est-ce que ça se voit aujourd'hui dans le paysage du Groenland? Est-ce que cet appétit pour les sous-sols, eh bien, quel hors-d'œuvre a-t-il déjà consommé? Quelle grue a-t-il activé? Quel trou a-t-il fait?
Alors, l'appétit actuel, il creuse peu de trous, sont surtout des explorations minières. Il y en a énormément sur le territoire. Mais quand on parle d'exploration au Groenland, et puis de manière générale, de toute façon, on parle de 3 ou 4 géologues qui mènent des recherches sur le terrain. Ils sont dans leur tente ou dans un hébergement en ville. Donc finalement, ils laissent peu de traces.
Après, ça, c'est l'exploration.
Oui, c'est l'exploration. Après, ils sont connus dans les villes. Donc, les gens savent qu'ils sont là. Les explorations sont pas secrètes du tout, mais elles sont plus ou moins connues. Donc, voilà, à l'heure actuelle, ces explorations sont très répandues, mais elles laissent peu de traces. Il y a une mine en activité dans le sud du Groenland, qui est une mine d'or en activité intermittente, qui est vraiment une toute petite mine, hein, d'une centaine de travailleurs, pas plus. Et puis, il y a une mine en construction à côté de Nuuk, qui serait une mine d'anorthosite, un matériau de construction. Et puis, il y a aussi...
Utilisé pour l'isolation en laine de roche.
Ouais.
C'est ça.
Oui. Oui, oui. Et donc, qui n'est pas encore en activité, mais qui est en construction. Et une mine de rubis qui a fermé, il me semble, en 2019, peut-être, par là. Et le gouvernement du Groenland a essayé de la relancer, là, depuis quelques années, mais ils n'ont pas les fonds.
Donc, il n'y a pas beaucoup de traces, en fait, si on était en avion et qu'on regardait, vu des airs, les traces qu'a laissé l'exploitation des mines, et même depuis le 19e siècle, on ne le verrait pas tellement ?
Non, nous, on ne le verrait pas. Après, si on remonte effectivement au 19e siècle, les Groenlandais, eux, ils le voient dans leur paysage. Parce que déjà, ils en ont le souvenir, parce que le rapport au territoire est très important au Groenland. Il y a une mémoire de l'exploitation, une mémoire des lieux. Donc les gens savent où il y avait des mines. Par exemple, dans le sud du Groenland, où j'ai été à plusieurs reprises, il y a plein de petits trous d'excavation qui, pour un œil étranger, ne sont rien, sont juste des grottes. Mais les gens savent que c'était une mine de cuivre, une mine d'or. Ils peuvent le dire. Et puis, il y a certains énormes trous d'exploitation. Il y a la fameuse mine d'Ivitut, qui était une mine de graphite en activité pendant 150 ans à peu près. Et là, c'est un trou gigantesque qui est rempli d'eau. Donc, ce trou-là...
Il est rempli d'eau ?
Oui, il est rempli d'eau à l'heure actuelle. Et il s'est rempli, en fait, à cause de l'eau du fjord qui a débordé et des eaux de pluie. Et puis, des eaux des glaciers qui ont ruisselé.
Et il est entouré d'une ville fantôme, désormais.
C'est ça. Donc ça, c'est un site qui est assez impressionnant. Mais je crois que c'est le seul à cette ampleur-là.
Donc, voilà. Il n'y a qu'une seule mine en service pour l'instant, nous disiez-vous, cette mine d'or, c'est ça ? Dans la ville, j'ai pas retenu, à Nanoulak, voilà, qui est d'ailleurs, elle n'est pas exploitée tous les jours 24 heures sur 24, c'est par intermittence.
C'est ça, ben, en fait c'est à Nelunak. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça veut dire l'ignorance, ça veut dire ne pas savoir. Et apparemment, ça tient son nom du fait que pendant les explorations géologiques, les géologues demandaient aux gens « Mais où sont les filons ?» et ils ne voulaient pas le dire. Bon, c'est l'anecdote locale, mais je trouve ça marrant. Et du coup, elle est en activité intermittente depuis 2004, en fait. Et à chaque fois, il y a eu des banqueroutes des différentes compagnies minières, il y a eu des rachats. Et c'est aussi symptomatique de l'industrie minière au Groenland qui manque d'investissement. Et donc, qui s'arrête comme ça par intermittence. Et puis, la question des filons qui s'épuisaient aussi, il fallait en trouver des nouveaux.
Donc, une mine en service, un projet très sérieusement engagé, nous disiez-vous, pour extraire de l'anorthosite. D'autres projets quand même, peut-être moins avancés, mais qui ont déjà obtenu des licences, des autorisations ?
Oui, il y a 10 licences d'exploitation à l'heure actuelle. Donc une licence d'exploitation, ça veut dire que le gouvernement du Groenland permet à l'industriel de construire sa mine. C'est donc un permis de construire, mais après il revient à l'industriel de trouver la manne financière. Donc finalement, même si on a ces 10 licences qui pourraient annoncer un gros secteur minier, il y a un problème de fond. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas 10 mines, mais il y a un projet de mine d'uranium dans le sud qui fait débat, qui est actuellement au tribunal d'ailleurs, parce qu'il y a des lois qui ont changé sur l'uranium, donc voilà, mais ce projet a une licence en soi. Il y a un projet de terres rares juste à côté, qui est très très prometteur, mais problème d'investissement aussi. Sur la côte est, en termes de projets prometteurs aussi, il y a un projet de molybdène qui a aussi l'autorisation. Donc le molybdène, pas mal exploité aussi dans la transition énergétique, tout ça, matériaux stratégiques, mais à nouveau, pas les fonds.
Donc tous ces minerais, ces matériaux, ces terres rares que convoitent les États-Unis avec l'argument de ce qu'ils seront nécessaires pour le monde entier pour mener à bien la transition écologique. Les abêties de Donald Trump, ces déclarations intempestives ont beaucoup choqué partout. Mais au Groenland, le Premier ministre, puisqu'au Groenland il y a un gouvernement autonome qui a la main sur plusieurs domaines, dont l'extraction des ressources, eh bien le Premier ministre a réagi de façon, disons, plus paisible.
Nous ne voulons pas être danois, nous ne voulons pas être américains, nous voulons être groenlandais. Le peuple du Groenland décidera seul de son avenir. Après, il existe une volonté de compréhension mutuelle avec les États-Unis et cette volonté doit être respectée. Le monde a vite changé ces derniers temps et il continue à évoluer très vite. Il y a 3 ou 4 ans, personne n'aurait pu imaginer que nous nous trouverions dans la situation actuelle avec les tensions internationales que nous connaissons. Je n'ai pas été en contact direct avec Donald Trump, mais je suis ouvert à la discussion et je pense que c'est réciproque. Il nous faut construire ce dialogue pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties.
Le Premier ministre du Groenland, Mutte Eggedø, c'est ça qui saute sur l'occasion donc pour ouvrir la porte à cette coopération économique avec les États-Unis. Il est, dit-il, ouvert à la discussion avec Donald Trump. Or, il se trouve, Marine Duke, que le Groenland votera demain pour des élections législatives. Quelle place a prise dans la campagne électorale, à la fois la question minière en général, mais plus précisément ces déclarations de Donald Trump?
Alors la question minière, elle est présente en fait depuis assez longtemps dans les élections et on va dire dans la question de l'accès à l'indépendance, parce que un des gros enjeux de cette question de l'indépendance, c'est comment est-ce qu'on peut la financer et comment est-ce qu'on peut la financer sans perdre en fait un niveau de vie qui est déjà on va dire largement en dessous des standards européens, occidentaux, danois, et notamment en termes de... Enfin, c'est une société qui est particulièrement hétérogène, le Groenland est très inégalitaire. Donc il y a cette idée-là qui est très présente. Donc la question minière, elle est régulièrement mobilisée comme ça, dans ce sens-là, au gré souvent d'une culture du miracle, en fait. Comment la mine pourrait venir combler un manque de ressources, un manque de revenus pour la population. Après, la question... les déclarations de Donald Trump, en fait, elles ont eu un effet dans la situation politique qui a été de revisibiliser notamment la mémoire coloniale et le traitement très infériorisant que pouvaient subir les Inuits de manière générale vis-à-vis du gouvernement danois, en fait.
Et avec la question minière, ça a un lien?
En particulier avec la question minière, mais pas seulement. C'est des propos qui sont beaucoup plus larges, parce que en fait, au moment où Donald Trump avait ses déclarations, on était aussi dans un temps très particulier de la trajectoire de décolonisation du Groenland, qui se trouvait grâce à des mouvements anticoloniaux assez bien installés, mais finalement peu audibles, en fait, en particulier dans les médias danois. Il y avait cette idée de faire ressortir une grande partie des violences subies par les populations, que ce soit des déplacements forcés, la modernisation forcée dans les années 70-80, ou des violences en fait de genre aussi, notamment avec l'histoire des stérilisations forcées, excusez-moi.
Non, je vous en prie, 4500 femmes groenlandaises qui ont 143, je crois, ont porté plainte l'année dernière. Elles se sont vues imposer un stérilet sans leur consentement dès les années 60.
Exactement. Et donc en fait, ça a été quand ce sujet est sorti dans les médias, il y a eu un débat en fait autour de la qualification possible du terme de génocide autour de cette question, puisqu'au regard du droit international, le fait d'empêcher une population d'avoir des enfants, au-delà de toucher à des questions de justice reproductive, touche aussi à cette question d'empêcher une population minoritaire d'exister, en fait.
Ce qui fait lien avec notre sujet du jour, c'est par exemple ce documentaire Marine Duc qui a été diffusé sur une chaîne de télévision publique danoise et qui a créé un très grand débat pendant la campagne électorale. C'est cette enquête menée par une chercheuse dano-groenlandaise et une danoise sur l'exploitation pendant la période coloniale d'un gisement de cryolite. C'est un minerai très rare qui ressemble à un gros bloc de glace qui est utilisé notamment pour produire de l'aluminium. C'est un gisement qui était sur la côte ouest qui est aujourd'hui épuisé. Qu'a appris ce documentaire aux Groenlandais? Parce que manifestement, vraiment, des choses ont été découvertes pendant la diffusion de ce documentaire que les Groenlandais disent n'avoir pas su jusque-là.
Oui, alors en fait, on a dans cette configuration-là un ressort assez classique de la colonisation qui apparaît. En fait, on a une politique de... Il y a une gestion, un gouvernement par l'ignorance, en fait, qui est très fort, en particulier dans le contexte groenlandais. Et donc, il y a beaucoup d'histoires de la colonisation, des violences coloniales, du gouvernement colonial qui sont complètement passées sous silence, avec une construction du déni aussi qui est largement mobilisée par les autorités danoises et la sphère médiatique danoise en particulier. Alors après, ce qu'on a appris dans ce documentaire, il y a deux choses. La première chose, le gros enjeu, c'est un enjeu, on va dire, matériel, un enjeu d'économie politique, qui est les bénéfices, en fait, qui ont été tirés de cette extraction. Alors, le documentaire, en fait, essaye de chiffrer le chiffre d'affaires de cette mine qui a été développée entre 1854 et 1987, donc sur un temps assez long. En fait, les bénéfices seraient particulièrement importants parce que ils seraient chiffrés à à peu près 40 milliards de couronnes danoises, d'euros, excusez-moi. Donc ça représente un certain volume, financier assez important. Et l'autre chose que ce documentaire a mis en avant, au-delà de cette question du chiffre d'affaires, c'est aussi comment la mine a organisé, comment le pouvoir colonial autour de cette extraction a organisé une sorte de technologie spatiale de pouvoir, en fait, où on a limité les déplacements autour de la mine et on a, par un dispositif, voilà, une organisation de village, un système de droit d'accès particulier à cette région, aux colonies qui l'entourent, on a en fait contribué à construire et à réguler la différence coloniale entre les colonisés et les colons, en fait, par un système de droit d'accès à cet espace et puis de qui a le droit de travailler dans la mine, en fait.
Alors le Danemark a très vivement réagi après la diffusion de ce documentaire par une chaîne de télévision publique. D'abord, il a été retiré, je crois qu'il est toujours en ligne sur le site de la chaîne. Le rédacteur en chef a été licencié, mais Le documentaire, encore une fois, n'aurait pas totalement disparu. La droite danoise, elle, assure que la mine a profité aux populations locales et surtout le gouvernement dit que les chiffres annoncés comme des bénéfices mirobolants ne prennent pas en compte le coût de l'extraction et du transport de la cryolite. Maintenant, quelle réaction au Groenland? Surtout, est-ce que tous les partis qui se présentent aux élections de demain ont réagi à ce documentaire en particulier et à cette question des revenus que tire ou ne tire pas le Groenland de cette exploitation minière?
Alors oui, les partis se sont beaucoup positionnés, de manière générale la sphère politique ou également dans les mouvements anticoloniaux, ça a été un gros facteur de mobilisation. Et il y a trois niveaux en fait, trois choses qui sont importantes à relever dans la façon dont ce documentaire a pu être mobilisé. Le premier, c'est que pour la première fois en fait dans l'histoire de la colonisation, on a chiffré concrètement sur un aspect particulier quel a été le chiffre d'affaires. Alors bon, bien sûr, il y a une controverse scientifique sur le sujet, mais c'est pas tant le débat en fait. Le débat, c'est que pour la première fois, cet argument-là fait que on peut retourner en fait l'argument classique qui est que le Groenland est un parasite qui coûte cher au Danemark. Là, pour la première fois, c'est l'inverse. En fait, on se rend compte que le Groenland finalement, aussi a rapporté de l'argent au Danemark. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé dans la campagne, notamment par Lars Emil Johansson, qui est le leader historique de Siumut, l'un des partis en bonne position, on va dire, pour les élections de demain.
Qui fait partie de la coalition toujours?
Oui, Siumut, oui. Mais Lars Emil Johansson est un petit peu en retrait de la vie politique maintenant.
Parce que pour faire un tout petit paysage électoral du Groenland, il y a le parti au pouvoir qui s'appelle IA, c'est Communauté Inuit. Alors comment est-ce qu'on le dit en
Inuit Ataqatigiit.
Voilà, ça veut dire Communauté Inuit ou du peuple, qui est plutôt de la gauche écologiste, pour le dire très très vite, on va avoir le temps d'en parler. Son électorat est plutôt diplômé et principalement basé à Nouuk. Et puis il y a ce parti Siumut, qui veut dire en avant, qui lui est beaucoup plus favorable à l'extractivisme intensif, qui a été au pouvoir en 2013 et qui à l'époque avait autorisé l'exploitation des gisements d'uranium.
C'est une très bonne décision, une décision très importante pour les générations futures. Cela montre que les Groenlandais veulent améliorer leurs conditions de vie, renforcer leur indépendance économique et prendre en main leur avenir. Cela va créer de la richesse économique pour les habitants tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le pays. Creating paths
to new times in Greenland. Alors, est-ce qu'au Groenland, Pia Bayeul, l'affirmation de la souveraineté est toujours passée par cette question de l'extractivisme, aller explorer puis exploiter les mines pour notre indépendance? C'est vraiment le discours, c'est le seul?
Je pense pas que ce soit le seul. Après, ce qui est intéressant à noter, je pense Marine pourra revenir là-dessus peut-être, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les années 60, quand vraiment se structure un mouvement qui revendique une indépendance et pas juste une autonomie, sans revenir sur les détails, mais voilà, dans les années 60, se structure ce mouvement-là, la question minière devient centrale en fait à l'indépendance parce que le Danemark refuse de donner au Groenland la souveraineté sur les sous-sols. De manière générale sur les sols, mais dans des négociations, le Groenland obtiendra des droits sur les sols, sur l'agriculture, le bâti, tout ça en 79, mais pas sur les sous-sols. Et du coup, il y a une dissociation qui est faite à cette époque-là entre ces deux niveaux, on va dire, et donc le territoire législativement, politiquement est scindé. Et la revendication pour l'obtention de la souveraineté totale va passer par le secteur minier parce que c'est comme ça que le Danemark va développer sa politique sur les sous-sols, exclusivement par le minier. Et à l'époque, il le dit clairement dans les années 60-70, on garde les sous-sols parce qu'on veut développer le minier pour avoir plus de manières de rentabiliser le Groenland et de structurer l'économie, aussi dans un discours extrêmement paternaliste, tout ça. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, souveraineté sur le territoire et sous-sol s'associent, et le minier devient spécifiquement la voie d'accès à des droits de gestion pour les Groenlandais. Donc ils vont revendiquer des choses très spécifiques, d'avoir les bureaux, par exemple, de ce secteur-là, à Nouuk et pas à Copenhague, d'avoir plus de royalties, des choses comme ça, d'intervenir en fait dans les lois. Et d'ailleurs, à l'époque, toutes les lois minières sont établies par le Parlement danois et ont trait au Groenland en fait. C'est jamais établi au Groenland, il faut attendre 2009 pour avoir le premier code minier groenlandais fait par des Groenlandais.
Et pourtant, Marine Duc, en 2021, le parti qui a remporté les élections, c'est donc ce parti Communauté du Peuple, IA, Inuit Ataqatigiit, qui, lui, avait fait campagne sur son refus d'un projet de mine d'uranium et de terres rares dans le sud, un projet qui a été porté par une société australienne. Alors, comment expliquer les nuances qu'il faut mettre dans toutes ces considérations? Est-ce qu'il y a au Groenland des sondages, une sociologie électorale? Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi ce parti avait quand même été porté au pouvoir en 2021 alors qu'il refusait de nouveaux projets de mines et qu'on dit que toute la société groenlandaise voudrait néanmoins recevoir et percevoir de l'extraction, de quoi prendre son indépendance par rapport au Danemark.
Alors je pense que c'est aussi un peu une vision occidentale en fait de penser que les Inuits de manière générale sont effectivement complètement dans une vision très naturaliste en fait, très proche de la nature et voilà, et soit à l'extrême opposé, au contraire n'ont pas vraiment de considération pour l'environnement parce que seul le projet de l'indépendance importe. Donc il y a un peu ces deux écueils dans lesquels il faut éviter de tomber, je pense, quand on s'adresse à cette lecture-là. Et justement le fait que le ban de l'uranium passe, pour moi c'est aussi l'évolution d'une trajectoire sociologique justement des votants en fait, c'est des votantes au Groenland. Il y a très peu de données en fait sur qui vote, à quoi correspond cette sociologie du vote en fait. Mais ce qu'on peut dire avec des observations un petit peu générales, et Pia pourra peut-être aussi compléter là-dessus quand on connaît un peu le terrain, en fait on voit quand même des fractures se dessiner, et notamment IE est beaucoup un parti politique de personnes qui ont du capital culturel. Donc c'est aussi une sociologie qui va être formée de gens un petit peu plus jeunes que dans les autres partis, qui ont une conscience écologique peut-être un petit peu plus avancée, et surtout qui ont aussi été formés beaucoup dans des universités danoises, ou en tout cas avec d'autres, avec l'extérieur du Groenland. Donc ça permet la circulation d'idées, et dans ce parti-là, il y a aussi cette idée-là. Donc je pense que le fait que ce parti soit arrivé en bonne position aux dernières élections, c'est lié à ces questions-là de sociologie du vote. On a aussi un niveau d'éducation qui augmente au Groenland depuis quelques années. Donc ça recompose la sociologie du vote. Mmh. Et l'autre élément à avoir en tête, c'est aussi le fait que le Groenland est quand même en première ligne dans les changements globaux, puisque l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et ça, les individus en ont tout à fait conscience.
Ce qui rend d'ailleurs les conditions logistiques, techniques d'extraction beaucoup plus compliquées, Pia Bayel.
Oui, c'est ça. En fait, je pense aussi ce qui a amené IE au pouvoir, c'est le fait que les premiers gros projets miniers sont développés après 2009. Et pour la première fois, les Groenlandais ont vu ce que ça pourrait être réellement une industrie minière à l'heure actuelle, et plus particulièrement de type extractiviste. C'est-à-dire juste on extrait au Groenland et ensuite on exporte la ressource. Donc quand même avec très très peu de gains économiques et sociaux pour les Groenlandais, pour les localités. Donc peur du vol des ressources s'est fait jour. Et aussi la question écologique, clairement, parce qu'une mine pollue, on peut pas l'enlever. Et au Groenland, à une échelle gigantesque, parce qu'en fait, il y a quand même très peu d'industrie. Et donc, une seule mine pourrait augmenter de 50% les émissions de CO2, en fait. Donc, c'est gigantesque.
Et ça entre en ligne de compte dans le débat politique, puisqu'on a l'impression, au contraire, que cette question de l'extractivisme est devenue centrale et que tous les partis, aujourd'hui, sont à l'unisson pour dire que c'est le seul moyen pour nous d'obtenir notre indépendance.
C'est ça. Après, ils ne disent pas tout. C'est le seul moyen. Ils sont tous pour développer cette industrie et la penser comme porteuse d'avenir, économique, sociale, etc. Et donc, il y a plein de politiques annexes qui ont été mises en place. Une école technique se développe dans le nord du Groenland, avec vraiment l'idée que ce soit très dynamique et d'avoir beaucoup de diplômés chaque année. En 2023, le code minier a été réformé avec une insistance sur les bénéfices sociaux pour les localités. Donc maintenant, les mines doivent s'engager à former la population, à mettre plus de 80%, je crois. Enfin, c'est vraiment un chiffre assez énorme de Groenlandais dans des postes, et notamment des postes qualifiés. Enfin, il y a vraiment la volonté que cette industrie serve. Et donc ça, ils sont tous d'accord. Mais la question, c'est la mesure et aussi le principe de réalité. À quel point est-ce qu'on peut compter là-dessus pour l'indépendance ?
Là, au sud, à 80 km, il y a une mine d'or. J'ai participé à sa découverte en 92. Mais désormais, la demande se focalise davantage sur ce qu'on appelle les terres rares. Elles sont très demandées par les États-Unis, l'Union européenne et bien d'autres pays à travers le monde. Cette ville était 2 fois plus peuplée avant. Les mines seraient un bon moyen de donner un emploi aux gens, des emplois qualifiés ou non qualifiés. Ce serait vraiment une chance pour le Groenland.
Un géologue interrogé par une équipe d'Arte, cette question de l'emploi, Marine Duc, est-ce que tous les habitants du Groenland y sont sensibles de la même façon, en tout cas, quelle que soit la ville où ils vivent ? Et quel que soit le jugement qu'on peut porter au fait que cet emploi serait sans doute de court terme, etc.
Oui, alors en fait, on a des très grosses disparités territoriales au Groenland, entre en particulier Nuuk et un petit peu Sisimiut et Ilulissat. Oui, les trois villes les plus importantes, dont Nuuk, la capitale. En fait, c'est des villes qui sont relativement tertiarisées. Et dans le reste du Groenland, en particulier sur la côte est, un petit peu au sud, les situations sont beaucoup moins évidentes. On a des taux de chômage qui sont assez élevés, notamment. Donc cette question minière, elle est vraiment vue comme une opportunité, comme la DPIA, et comme une potentielle source d'emploi. Le problème, c'est la question des qualifications. Parce que dans le Groenland d'aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près quasiment 50% de la population n'est pas allée au-delà de l'enseignement obligatoire, donc les 10 années d'école. Donc c'est l'école primaire plus le collège au Groenland. Donc en fait, on a un manque de compétences qui est vraiment érigé en problème public par les autorités groenlandaises. Le fait, comme le disait Pia, de vouloir développer des écoles avec une perspective technique ou de l'enseignement professionnel à destination des mines, ça s'inscrit totalement dans cette logique-là. Parce que le problème de la compétence, il n'est pas du tout formulé en termes d'inégalité, par exemple d'inégalité d'accès, alors même qu'elle favorise structurellement les personnes danophones, cette école. Mais elle est formulée comme un problème de souveraineté, c'est-à-dire comme un problème de qui accède aux positions d'encadrement, qui accède aux positions d'élite, et comment justement les modèles de développement sont imposés et quels modèles de développement on choisit, parce que qui les pense en fait.
C'est d'ailleurs une question cruciale aussi, toujours dans la perspective d'une indépendance, puisque beaucoup de Groenlandais partent aujourd'hui s'installer au Danemark pour trouver du travail. On lit ici et là une grande peur qui paraît partagée de passer sous la barre des 50 000 habitants. Pourquoi c'est pas une barre fatidique, mais néanmoins on estime que en dessous ça sera plus difficile de convaincre les habitants de prendre l'indépendance par rapport au Danemark. Est-ce qu'il y a, Pia Bayol, l'idée aussi de créer une société publique groenlandaise pour l'extraction de ces minerais? Pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont essentiellement des entreprises étrangères qui s'en occupent. Or, la question de la souveraineté, elle passe aussi par là.
Oui, totalement. C'est vraiment une question qui traverse le Parlement groenlandais, là, on va dire de 2009 à 2020, et qui est resté sans réponse. En gros, IA a toujours porté la question d'une compagnie minière nationale.
Donc le parti au pouvoir.
Oui, le parti au pouvoir qui a pris le pouvoir en 2021. En fait, jusque-là, c'était un parti d'opposition. Et du coup, eux, ils revendiquaient effectivement une compagnie nationale avec l'idée assez logique de gagner beaucoup plus et de former beaucoup plus la population et de gagner en souveraineté, etc. Cette position n'a jamais obtenu majorité parce que tout simplement il n'y a pas les fonds et que donc sur le principe de réalité les autres partis n'ont jamais suivi IA. IA étant au pouvoir là depuis 4 ans, ils n'ont jamais porté cette proposition là au Parlement, aussi parce que je pense qu'ils voient que ça ne marche pas forcément en fait dans les pays où c'est mis en place. Et le problème de fonds est structurel au Groenland, donc finalement à l'heure actuelle ce ne serait pas si rentable. Et donc ce qu'ils choisissent c'est toujours de faire appel au secteur privé qui a une manne financière beaucoup plus grande, mais pas que dans l'exploitation, aussi dans l'exploration, parce qu'à l'heure actuelle l'exploration géologique, donc les données scientifiques sur qu'est-ce qu'il y a au Groenland, sur quoi est-ce qu'on peut compter, sont aussi majoritairement récoltées par l'industrie privée en fait, qui redonne ces informations-là au Groenland dans le cadre d'accords privés. Donc finalement de manière générale le Groenland pour son secteur minier et son développement minier ne pourrait pas se passer du secteur privé à l'heure actuelle, ça coûte encore beaucoup trop cher.
Donc c'est ce parti au pouvoir pour l'instant qui fait beaucoup affaire avec le privé, il ne serait sans doute pas le seul si ce n'était pas lui, mais c'est néanmoins lui qui s'est opposé en 2021 au projet d'extraction d'uranium par une société australienne, Greenland Minerals, dont un conglomérat d'État chinois détient 11% du capital. D'ailleurs, le Danemark met très souvent en garde le Groenland contre ce qu'il considère comme un début d'ingérence chinoise. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets d'exploration, ne serait-ce que ça, portés par des opérateurs chinois?
Non, c'est vraiment anecdotique. Les acteurs principaux au Groenland, c'est Canada, Australie, Angleterre, à large majorité, qui sont vraiment les états historiques de l'extractivisme. La Chine, j'avais regardé, a eu un projet d'exploration, je crois en 2012 par là, qui n'a rien donné. Et ensuite, elle s'est impliquée, elle a racheté la licence d'un projet qui avait une licence d'exploitation. Effectivement, juste à côté de Nuuk, qui est un projet qui suscitait énorme contestation, en fait, bien avant pour des raisons écologiques. Mais en fait, elle n'a jamais, cette compagnie chinoise, amassé le capital nécessaire. Donc le Groenland lui a retiré sa licence, je crois en 2017, quelque chose comme ça. Mais du coup, sur une question purement administrative, finalement, pas du tout géopolitique. Et il faut attendre un projet de barrage, donc qui n'a rien à voir avec la mine, pour que le Danemark intervienne. En fait, le Groenland avait fait un appel d'offres pour financer la rénovation de ces barrages. La Chine allait gagner le marché, il me semble. Ou peut-être c'était pour les aéroports.
Les aéroports.
Ouais, c'était les aéroports, pour rénover les aéroports et en construire des nouveaux, internationaux. Et donc c'est la Chine qui s'est imposée, là le Danemark les a éloignés. Donc finalement, là ça marque un peu un moment charnière, c'est autour de 2020, sur le fait de repousser la Chine et de ne pas lui permettre d'investir au Groenland.
Et c'est surtout un discours du Danemark, alors en tout cas, peut-être aussi pour se donner des arguments, pour dire restez avec nous, on pourra peut-être plus vous protéger des appétits chinois.
Je pense, et puis aussi, juste, pas une meilleure connaissance en géopolitique, mais plus de prise avec les enjeux géopolitiques que les politiciens groenlandais. Mais là, par contre, pour revenir juste sur le minier, il y a un principe de réalité qui est que la Chine détient l'expertise sur les métaux stratégiques, les terres rares notamment, mais aussi toute une série de métaux critiques. Et donc, pour les projets miniers groenlandais, c'est extrêmement difficile pour les industriels de se passer de cette expertise et de ne pas avoir de sous-traitance à un moment qui fasse intervenir la Chine. Donc, le Groenland ne pourrait pas, je pense, de manière réaliste, interdire l'intervention chinoise. Sinon, il se couperait de ses industriels. Enfin, ça paraît très peu réaliste.
C'est aussi pour ça que le Danemark s'en émeut, qui met en garde aussi contre l'influence russe, les Russes qui possèdent déjà 60% de l'Arctique, et contre les États-Unis, dont le Danemark dit que le Groenland pourrait devenir un territoire sous influence, un peu comme Porto Rico avec un statut très spécial, le Groenland qui ferait partie donc des États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre, Marine Duc, de ce que le Premier ministre, M. Eguideu, pourrait attendre d'un éventuel partenariat avec Donald Trump? On l'a entendu tout à l'heure, il dit bien on va se faire acheter par personne, ni par le Danemark, ni par Donald Trump. Néanmoins, on peut discuter, mais pour tirer parti, comment, de cet intérêt états-unien pour le Groenland?
Alors, l'intérêt états-unien, il est surtout, pareil, il est un petit peu inégalement dispatché, on va dire, dans le paysage politique. Il s'en empare, mais c'est pas le parti qui surfe le plus, on va dire, sur cette position-là. C'est plutôt le parti qui a la position la plus radicale sur l'indépendance qui va essayer d'utiliser ce discours-là, c'est Nalera, qui est vraiment le parti qui mobilise justement un discours de radicalité, on va dire, en termes temporels. L'idée que l'indépendance doit advenir le plus rapidement possible.
Parce que là-dessus, il y a des divergences dans le scénario de l'indépendance entre les différents partis.
En fait, globalement, on pourrait dire au Groenland que la plupart des partis, sauf peut-être Atassut, mais la plupart des partis politiques, en fait, sont favorables à l'indépendance. Mais ce qui va faire débat, c'est les modalités de cet accès à l'indépendance et comment on construit un État dans les conditions qui sont les nôtres, hein, une situation postcoloniale avec ses inégalités, sa gouvernance encore pas totalement détachée du Danemark. Voilà. Donc il y a ces enjeux-là qui sont mis dans la balance. Et l'autre point de débat, c'est les modalités économiques de cette indépendance et donc quel modèle de développement on met en œuvre sur du minier, du touristique, d'une économie de la connaissance. Enfin, voilà, il y a plusieurs pistes qui sont un petit peu ouvertes. Et donc pour revenir à l'idée de ce partenariat avec les États-Unis, la position de la coalition, elle a été en fait pas très homogène et il y a eu des conflits parce que Sumut notamment a pris des initiatives de se rapprocher de cette déposition états-unienne et notamment d'ouvrir le débat sur ces enjeux-là. Donc il y a eu des divisions ces derniers temps, juste avant en fait l'annonce des élections, hein, au moment des annonces de Trump, sur qu'est-ce qu'on fait de cette position-là.
Alors que Sumut, c'est un parti qu'on peut considérer, nous, vu de France, comme d'extrême gauche ou communiste, non?
Oui, alors, il faut se détacher du rapport gauche-droite tel qu'on l'entend en France, ou même par rapport au Danemark, où c'est la
des grilles de lecture qui vont faire
la même chose. Non, c'est pas ça, c'est juste que, en fait, la situation politique au Groenland, elle est très à gauche, en fait, de manière générale. Il n'y a pas beaucoup. Les partis les plus. C'est des partis libéraux, mais qui peuvent aussi avoir un discours nationaliste, voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué de décalquer les catégories habituelles qu'on utilise en France sur la situation groenlandaise. La plupart des partis ont des positions très étatistes et puis, oui, ce qu'on pourrait qualifier de plutôt à gauche et progressistes sur des questions sociales.
Alors, on n'a pas beaucoup entendu, et l'idée n'est pas évidemment de juger cette question de l'extractivisme et de comprendre en quoi c'est un enjeu au Groenland et une question politique pour les questions d'indépendance vis-à-vis du Danemark. Néanmoins, Pia Bayol, comment se pose la question qu'on a aborder très rapidement, environnementale, cette question du mal que peut avoir déjà fait l'extraction dans les sous-sols et qu'elle peut continuer à faire si l'extraction se développe comme ça, à tout craint, pour répondre à des besoins de financement.
Alors qu'il y a quelques exemples historiques de compagnies minières qui sont parties et qui ont laissé tous leurs déchets, qui ont pollué, il y a 3-4 exemples au Groenland comme ça, dans les années 50, alors qu'il y a ces exemples-là qui auraient pu entraîner dès les années 2000 une crainte de pollution, tout ça. ont été dans les années 2000-2009 qu'on se pose la stratégie d'indépendance par la mine, vraiment de manière publique, populaire, tout ça, tout ça. C'est pas du tout ça qui est sur le devant de la scène, qui est posé. C'est vraiment, on va être indépendant grâce aux mines. Aussi parce que cette industrie-là est très ancienne et aussi parce que les minerais font partie du rapport que les gens ont à leur territoire. Le fait d'aller collecter des pierres dans la nature, d'y associer des contes, des récits, des histoires, tout ça, ça fait partie du quotidien des gens. Donc il y a cette familiarité-là, et puis le fait de pas vraiment regarder le passé. Et donc c'est que à partir des projets miniers de 2009, et que là, que ces projets miniers montrent en fait des plans de faisabilité, comment on allait extraire, où est-ce qu'on allait mettre, ça allait être quoi l'empreinte carbone, toute une série de questions en fait extrêmement pratiques, que là, la question environnementale, elle a commencé à se poser. Et le marqueur un peu, moi, que je trouve, c'est 2012, il y a une concomitance. Un projet de London Mining, une compagnie anglaise. Le projet était une mine de fer juste à côté de Nuuk et il aurait fallu, pour accéder au minerai, enlever 1,5 tonne de glace, en fait, par an. Ce qui était gigantesque et qui allait totalement à l'encontre, en fait, de tout le débat sur la question climatique qui commençait à émerger aussi au Groenland à ce moment-là, quand même, et du fait que les gens voyaient bien que leur territoire, il se transformait quand même très rapidement. Et donc, c'est vraiment à partir de ce projet-là que ça s'est posé, et en même temps, au Parlement groenlandais, Siumut, mais bon, il y avait un accord général des partis, a fait passer une loi pour les projets à grande échelle. Donc, vraiment, des projets massifs comme le Groenland, on n'avait jamais vu. Et donc là, très clairement, la question environnementale, elle a été sur toutes les bouches. Et puis, en même temps, le projet d'uranium s'est développé. Donc, la radioactivité qui, historiquement, a un rôle, une histoire politique très importante au Groenland, liée à la fois à l'indépendance, à la fois au territoire. Donc voilà. Donc, c'est vraiment dans ces années 2012-2013 que ça se joue et c'est resté un enjeu majeur. Et donc, c'est pour ça que maintenant, en fait, clairement pour l'extraction, pour un extractivisme d'État, tout ça, malgré cet extractivisme et pour des politiques environnementales très fortes qui passeraient par des accords passés en amont avec les compagnies, des révisions très strictes des projets miniers par des instituts environnementaux, toute une série de mesures finalement.
Le Groenland a obtenu, on le rappelle, du Danemark en 2009 l'autonomie sur ses ressources minières. C'est également à peu près en 2009 que le Groenland a mis en place un code minier avec de nouvelles contraintes. Est-ce que par exemple les groupes étrangers qui veulent faire de l'exploration ou de l'exploitation sont obligés de présenter des documents et de faire des consultations de la population. Est-ce qu'elles se prêtent à ces contraintes-là, le cas échéant? Est-ce qu'elles le font en groenlandais, ce qui est encore une contrainte supplémentaire?
Oui, c'est l'une des particularités du Groenland quand même sur le minier, c'est que législativement, les compagnies ont l'obligation de mener des consultations publiques et de publier tous leurs documents en groenlandais, en danois et en anglais. Sachant que c'est quand même pas suffisant, ça, parce qu'il y a d'autres langues que le Kalaallisut, qui est le groenlandais de l'Ouest, qui sont parlées au Groenland. Donc en fait, si on voulait vraiment bien faire, il faudrait que ce soit aussi dans la langue de la localité dans laquelle le projet minier est développé.
Donc ça complique un petit peu les choses pour les entreprises, ça les tient à distance d'une certaine manière aussi
Ça les tient à distance plus ou moins, parce que quand même, on peut dire qu'il y a 10 projets d'exploitation qui sont en cours, qu'il y a une palanquée de licences d'exploration. Et aussi, pour les explorations, en fait, rien que ça, les compagnies ont à faire des réunions publiques. En fait, c'est pas obligatoire, mais en fait, en termes d'acceptation sociale, ça l'est. Ça l'est, très clairement. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont nécessaires. Et puis aussi, là, depuis 2023, l'une des nouveautés, c'est quand même des contrats d'entente passés avec les localités concernées qui doivent établir très clairement le nombre de travailleurs employés, les impacts locaux, la question de la restriction d'accès aussi au territoire, parce que c'est pas juste la mine, souvent il y a un périmètre de sécurité dans lequel les gens pourraient plus accéder, question aussi qui toucherait la pêche et la chasse par rapport à la faune, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là sur vraiment mais l'empreinte sur le territoire à tous les niveaux de la mine qui doivent être fixées en amont par l'industriel et en collaboration avec la localité.
Des questions qui se posent aussi pour un autre secteur qui génère des revenus pour le Groenland et qui pourrait en générer davantage s'il était développé, c'est la question du tourisme. On en parle dans notre focus juste après ce groupe groenlandais qui s'appelle Nanook.
Il nous n'aura un seigneur.
Nanouk, ce groupe groenlandais dont le nom a été choisi en référence à l'ours de la mythologie inuite, Nanouk, le maître des ours polaires. Eh bien, Nanouk chante dans sa langue et a d'ailleurs refusé la proposition d'une grande maison de disques qui lui demandait de chanter en anglais. Lui a dit qu'il voulait maintenir son identité culturelle. Le Groenland ou les minerais pourraient être le carburant de l'indépendance. C'est le premier épisode de notre série sur les États en quête de souveraineté sur leurs ressources minières. Pour le Groenland, les revenus liés à l'extraction permettraient de ne plus dépendre des subventions du Danemark et d'accéder à l'indépendance. Le tourisme est pour ce faire une autre voie développée par le Groenland, à condition, là encore, qu'il reste raisonnable.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le d'Iloulissat, une petite ville de 5000 habitants, qui est d'accord pour développer le tourisme, mais un tourisme raisonné, dit-il.
One ship max, one day.
Un bateau maximum par jour avec au maximum 1000 touristes par bateau. On ne veut pas devenir comme l'Islande, on ne veut pas du tourisme de masse. On veut pouvoir réguler le tourisme ici. On n'a pas la capacité d'accueillir autant de monde. Il faut garder à l'esprit que nous ne sommes que 5000 à vivre ici à Iloulissat.
Le secteur du tourisme représente 10% du PIB aujourd'hui au Groenland et il se développe à la faveur notamment de l'aéroport international de Nuuk qui a ouvert en novembre. Comment le Groenland tente-t-il là aussi de concilier croissance économique et préservation de l'environnement ? Bonjour Marie-Noëlle Rimaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse à Excelia et membre du Centre français pour la recherche en Arctique et Antarctique. D'abord, ce nouvel aéroport qui a ouvert à Nuuk, la capitale, en novembre dernier. Est-ce que c'était à l'origine une volonté du Groenland ou du Danemark pour que les échanges entre leurs deux capitales en soient facilités ?
Oh, écoutez, c'est plutôt un objectif et une attente du Groenland. Hein. Donc, il s'agissait de créer une nouvelle piste de 2200 m² pour accueillir des avions long courrier et ainsi faciliter l'accès avec les grandes villes du monde, mais aussi permettre finalement d'organiser un déplacement dans l'île en moins d'1h30. Donc, c'était une attente des Groenlandais. L'aéroport de Nuuk donc entre en fonction depuis le mois de décembre. D'autres projets autour, là aussi, de la consolidation des infrastructures, puisque, comme vous l'avez évoqué précédemment, l'objectif du territoire est de sécuriser son économie. C'est un enjeu essentiel en cas d'indépendance, car une diversification économique insuffisante se traduirait, de fait, par une plus grande vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Et on l'a vu récemment, les futurs développements de l'Arctique suscitent des convoitises. Donc effectivement, la consolidation des aéroports, que ce soit Nuuk, demain Iloulissat et ensuite Qaqortoq, est assez stratégique pour le pays.
Alors, cet aéroport permet désormais des vols long courrier. Vous le disiez, je crois que c'est en juin seulement que se mettra en place le direct Nuuk-New York deux fois par semaine par la compagnie United Airlines. Il y aura des vols danois. La compagnie danoise est intéressée aussi pour trois vols par semaine. Les touristes n'ont plus à faire escale d'abord plus au nord sur une ancienne base militaire états-unienne qui était le seul aéroport à pouvoir accueillir des longs courriers. Il fallait ensuite prendre un petit avion de ligne intérieure souvent annulé à cause du temps ou passer c'est par Reykjavik en Islande. Est-ce que la capitale, depuis Kuuk, a inauguré de nouveaux hôtels, de nouveaux restaurants pour accueillir ces nouveaux touristes et ceux à venir ?
Oui, absolument. Et d'autres projets sont en cours, hein, que ce soit, donc on a parlé de Nuuk, mais l'Ulissat, qui est l'entrée de la baie de Disco, qui concentre la majeure partie du tourisme et des séjours hôteliers, là aussi est en train de consolider beaucoup c'est la question de l'hébergement. Il faut savoir que le tourisme a rapporté plus de 250 millions d'euros en 2023 au pays, soit 8% environ du PIB, et permis la création d'environ 1000 emplois. Donc c'est très stratégique pour le territoire. Et maintenant, le territoire réfléchit à la manière de consolider, mais finalement en préservant, en consolidant la préservation versus la mise en tourisme, avec une réflexion autour de quel tourisme pour demain.
La préservation, c'est un enjeu essentiel, bien sûr. Il ne s'agit pas d'attirer un tourisme de masse. Est-ce que des règles ont été fixées, des contraintes imposées, et lesquelles, par le Groenland, pour éviter justement de devenir une destination touristique de masse ?
Absolument, une nouvelle loi sur le tourisme est entrée en vigueur en octobre 2024 et elle vise à finalement diviser le territoire avec des zones qui pourraient même être interdites. Hein. Vous avez évoqué, je crois, l'activité des croisières, là aussi.
Mais on vous écoute. Ah, d'accord. Pas encore.
Le témoignage du maire d'Ilulissat.
Oui, du maire, oui, bien sûr.
Voilà, tout à fait, par rapport au maire d'Ilulissat qui disait que l'objectif aujourd'hui, c'est de contrôler cette activité de croisière. Pourquoi ? Parce que effectivement, tout au long de l'été 2023, plusieurs petites villes ont vu deux à trois navires de croisière accoster le même jour, et donc des centaines de passagers débarquer dans les communautés. On imagine les effets. Donc le gouvernement a bien mesuré la nécessité de contrôler et effectivement d'associer aussi, parce qu'il y a deux choses. Il y a à la fois contrôler, mais c'est surtout aussi associer les communautés et les opérateurs locaux. Et c'est ce qui, effectivement, ressort dans la nouvelle loi. Elle fait actuellement l'objet de consultations publiques. C'est vrai que les voyagistes, notamment internationaux, et les autres parties prenantes hésitent à trop discuter publiquement, parce qu'un des principaux thèmes abordés dans ce texte, c'est le renforcement des pouvoirs des opérateurs locaux. Comme pour le minier, finalement, on se rend compte qu'on est en train de redonner la main aux opérateurs du territoire.
Pour le Groenland, est-ce que l'Islande, toute proche, a servi de modèle, qui a développé son tourisme dans les années 2010, même un peu avant ?
Absolument. Il a servi de modèle. Il est aussi, je dirais, un territoire intéressant, puisque vous avez pas mal de visiteurs nordiques. Il faut savoir qu'en termes de fréquentation touristique, une partie de la fréquentation vient des territoires nordiques. Il a aussi servi d'exemple dans la manière de mettre en place des dispositifs de type parc et là aussi des dispositifs visant à limiter le nombre de passagers de croisière, puisque là aussi il y avait des enjeux assez stratégiques par rapport notamment au Svalbard. Donc bien évidemment la question et la situation de l'Islande a été examinée. Au même titre que peut-être la nature des activités proposées par l'Islande, donc avec finalement beaucoup de similitudes, les opportunités sont sensiblement les mêmes sur les activités de plein air et comment on met en valeur cette activité de plein air plus durable.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent, notamment les Inuits du Groenland, du fait d'être devenus une attraction touristique ? Vous qui êtes beaucoup allés aussi à leur contact, mais enfin aussi avez participer à ce genre d'exploration pour voir un petit peu comment ça se passait, c'est ce qu'on dit le tourisme qualitatif au Groenland et ses activités organisées par des opérateurs étrangers.
Alors c'est toute la question finalement là aussi du cadre mental donc qui est associé au tourisme polaire. C'est une collègue Véronique Antomarchi qui a résumé le fait que le tourisme polaire c'est une sorte de quête d'abord sociale, de distinction. On marche sur la trace des explorateurs et des aventuriers. On part à la recherche du paradis blanc, qui est spirituel ensuite, d'une nature sauvage.
Donc,
et puis on veut rencontrer
les peuples de lieux communs.
On vient voir les derniers ours blancs, assister à la fonte des glaciers, le paradigme finalement de la finitude écologique. Mais on ne connaît pas. On vient découvrir un chasseur habillé en peau d'ours, mangeant de la faux, de la viande crue et vivant dans l'igloo ou chassant le phoque en kayak. Donc on comprend bien que le Groenlandais, face à tout ça, qui est quelqu'un de très résilient, hein, ce peuple premier, c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à accepter. Donc il y a toute une partie de la population pour qui ce développement touristique, il ne le souhaite pas du tout. Là, vous avez évoqué mes séjours à Ilulissat ou à Oradsout. Effectivement, les populations étaient plutôt en retrait, y compris par rapport à notre présence, qui est une petite présence en voilier, quelque chose d'assez neutre, mais on sentait bien qu'il y avait une partie de la population pour qui notre présence n'était pas souhaitable.
Merci beaucoup Marie-Noëlle Rimaud, enseignante-chercheuse, membre du Centre français pour la recherche en Arctique et Antarctique. Peut-être une petite question infrastructure que je vous destine, Pia Bayeul. La question des routes, elle est importante quand on crée des aéroports. Alors là, il y en a un qui a ouvert en novembre, mais il y aura un autre dans quelques mois qui va ouvrir un peu plus au nord, je crois. Comment on lie entre ces aéroports? Comment est-ce que tout de suite le Groenland va se mettre à construire des routes partout?
Je pense pas que ce soit l'idée, parce que justement, il n'y a pas de route à l'heure actuelle au Groenland entre les villes et les villages. Et à la fois, on comprend d'un point de vue économique, parce que maintenir ces infrastructures-là dans le climat arctique, ça coûte extrêmement cher. Mais c'est aussi une volonté politique ou idéologique, on peut dire, liée à l'environnement, liée au fait de ne pas vouloir modifier le territoire et de ne pas trop l'anthropiser, en fait. Donc finalement, la question des infrastructures, elle touche le tourisme, mais aussi également les mines. Parce qu'une mine, ça se voit dans le paysage. Et il faut aussi la raccorder soit par port, soit par route à un aéroport. Enfin, voilà. Elle pose cette question-là de son raccordement plus général aux voies aériennes et maritimes.
Et c'est aussi pour ça que les mines ne se voient pas beaucoup dans le paysage, les empreintes des mines sur les paysages du Groenland, parce qu'on ne peut pas les voir de la route, puisqu'il n'y a pas de route. C'est ça?
Exactement. On les voit depuis le bateau, par contre.
Marine Duc, peut-être pour conclure, les élections au Groenland, c'est demain. Est-ce que cette question du tourisme aussi est une question qui émerge dans la campagne électorale, les recettes touristiques pour, à terme, mener à l'indépendance?
Oui, elle est un petit peu présente, en fait, au même titre que le minier. Mais en fait, les autres enjeux des élections, elles se situent sur également d'autres secteurs. La population est beaucoup en demande, par exemple, de traiter les questions sociales, notamment la question de l'accès à l'école, la question aussi du nombre de crèches qui est complètement insuffisante par rapport aux demandes. Donc voilà, il y a aussi un petit décalage entre ce que proposent les partis politiques et les attentes de la population, qui sont beaucoup plus, on va dire, proches de questions sociales que ne le sont les questions d'indépendance, en fait, finalement.
Et demain, ce sera vraiment la surprise de savoir quel parti émerge de ces élections, puisqu'il n'y a pas de sondage, nous disiez-vous, au Groenland.
Très peu.
Très peu. Bon, ça fait du bien aussi de ne pas être là à faire des prévisions et d'essayer de lire dans une boule de cristal. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Pia Bayeul, chercheuse postdoctorale au CERI, chargée de recherche au Fonds Latour. Merci Marine Duc, enseignante-chercheuse en géographie sociale et politique à l'Université de Reims. Vous êtes membre aussi du laboratoire d'analyse comparée des pouvoirs. C'est l'heure de la revue de presse internationale de Catherine Dutu.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et votre revue de presse commence au Koweït. Le gouvernement a déchu 42 000 personnes de leur nationalité.
En 6 mois seulement, et c'est le signe d'un durcissement de la monarchie pétrolière du Golfe, souligne le Financial Times et CNN Arabique. Alors que le pays stagne sur le plan économique comparé à ses voisins, il faut bien trouver des boucs émissaires, indique le Financial Times. Ce sont les citoyens naturalisés, même depuis des décennies. Les autorités, de leur côté, disent s'en prendre à des nationalités obtenues frauduleusement, rapportent les quotidiens koweïtiens Al-Kabas et Arab Times, ainsi que le journal panarabe Al-Quds Al-Arabi. Chaque semaine, des Koweïtiens parcourent frénétiquement les longues listes de nouveaux apatrides, craignant d'y trouver leur propre nom ou ceux de leurs proches, raconte le Financial Times. 42 000 personnes déchues de leur nationalité, c'est 3% de la population dans un pays qui ne compte qu'1,5 million d'habitants, indique le Financial Times. La plupart des Koweïtiens connaissent donc une famille concernée. Lorsque Faisal s'est enregistré à l'aéroport international du Koweït à la fin de l'année dernière, c'était un homme d'affaires voyageant en jet privé, possédant ce qu'il pensait être l'un des passeports les plus solides du monde arabe. Mais il n'est jamais monté à bord de son avion et lorsqu'il a quitté l'aéroport, il n'était plus koweïtien, décrit le Financial Times. Son passeport confisqué, sans explication, avoir une nationalité est pourtant un droit humain fondamental.
Quant au Koweït, il soutient qu'il s'agit de cibler des criminels étrangers.
Celles et ceux qui profitent des aides sociales versées aux Koweïtiens, explique le Koweït Times, comme un écho au discours nationaliste que l'on peut entendre en Occident.
Le
Koweït a été instrumentalisé par différentes nationalités. Je ne vais pas les citer, mais il y a des intrus étrangers qui n'ont pas les mêmes habitudes, la même langue que nous, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Cheikh Fahad Al-Youssef, sur la chaîne télévisée koweïtienne Al-Rai TV. Le gouvernement a essayé, dit-il, plus d'une fois d'amender les lois sur la nationalité, mais toutes ces tentatives ont été rejetées par les assemblées nationales successives. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir vite maintenant. Le Koweït a suspendu pour 4 ans le Parlement élu. Suspension aussi de certains articles de la Constitution, rappelle le Financial Times. Et pas question de contester quoi que ce soit publiquement. Hier soir, le ministère de l'Intérieur koweïtien a annoncé l'arrestation et l'expulsion d'une femme qui avait critiqué sur les réseaux sociaux les décisions de l'État, rapporte le journal koweïtien Arab Times. Et face à la colère qui grandit tout de même dans le pays, le gouvernement a consenti à remettre un passeport koweïtien bleu à certains habitants, mais sans nationalité koweïtienne. Il est seulement mentionné sur ces documents que les personnes doivent être traitées comme des citoyens koweïtiens, relève le quotidien Al-Quds Al-Arabi. Alors certains préfèrent en rire, raconte le Financial Times. Une blague au Koweït raconte que Donald Trump, qui s'est engagé à expulser des États-Unis des millions de sans-papiers, devrait venir dans la pétromonarchie du Koweït pour s'inspirer des déchéances de nationalité.
En matière de climat, à présent, Catherine, seules 36 entreprises sont responsables de la moitié des émissions de carbone à l'échelle planétaire.
Ce qui renforce pour Le Guardian et Axios l'argument en faveur de la responsabilisation des entreprises dans les dommages liés au dérèglement climatique. Que ce soit des entreprises privées ou publiques, ajoute le Financial Times, des entreprises qui exploitent du charbon, du pétrole, du gaz, du ciment, il est grand temps de leur demander des comptes, estiment les chercheurs de cette étude, la Carbon Majors Database, issue d'un groupe de réflexion sur le climat, Influence Map, basé à Londres. Alors les 5 plus grandes entreprises d'État listées dans cette étude sont le groupe saoudien Saudi Aramco, l'indien Coal India, l'iranien National Iranian Oil, les chinois CHN Energy et Jinan Group. Ils sont à eux 5 responsables de près de 20% de l'ensemble des émissions mondiales de CO2 provenant donc des énergies fossiles et du ciment, détaille le Financial Times. Côté entreprises privées, les 5 entreprises les plus polluantes sont ExxonMobil et Chevron, basées aux États-Unis, les Britanniques Shell et BP, le français Total Energy, qui représente près de 5% de ses émissions. Les données de Carbon Major ont déjà été utilisées comme preuve à l'appui des lois adoptées dans les États de New York et du Vermont aux États-Unis, qui demandent réparation aux géants de l'énergie pour les dommages causés au climat. Et puis, des activistes pro-environnement préviennent dans les colonnes du Guardian. Ils pourraient mener davantage d'actes de sabotage contre les entreprises qu'ils considèrent comme responsables de la destruction de la planète. Ils pourraient s'inspirer d'un écologiste suédois, Andreas Malm, qui avait écrit « Comment faire exploser un pipeline ?» C'était il y a 4 ans, rappelle le Guardian. Fin décembre, en Allemagne, des militants ont eux ciblé des gazoducs. D'autres ont incendié des usines qui produisent du béton à Berlin, rapportent la Berliner Zeitung et le Berliner Morgenpost. Des dégonfleurs de pneus sont aussi passés à l'action en Cornouailles, crevant des pneus de SUV, véhicules très polluants, dans des concessions automobiles au Royaume-Uni, note le Daily Mail, ou bien dans les rue de Gand, ajoute le Brussels Times, et même en France, à Bordeaux, indique le journal Sud-Ouest. Continuez à nous écrire, à réagir à l'actualité internationale en nous écrivant à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Merci pour tous vos messages qui alimentent, je le rappelle, la revue de presse interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, pour la suite de notre série sur ces États qui affirment leur souveraineté en matière d'extractivisme alors que les États-Unis affichent leurs ambitions sur les gisements miniers, que ce soit au Groenland ou en Ukraine, eh bien, nous parlerons du Mali, où la junte au pouvoir a entrepris d'éloigner des mines d'or les entreprises étrangères, la junte Nouvelle Force de l'Or. Ce sera demain, dans un instant, les Midis de Culture.